Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi en direct de Roland-Garros. Toute cette semaine, Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information, évidemment, de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi, avec à la une aujourd'hui cette affaire, sordide s'il en est. Le PDG du groupe d'assurance Assu 2000, Jacques Boutier, est mis en examen et incarcéré pour viol sur mineur. Nos informations dès le début du journal. Le petit déjeuner de la majorité ce matin à Matignon, en pleine affaire Damien Abad. Qu'est-ce qui s'est dit ce matin? Je poserai la question à Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Le nombre des litiges auprès du médiateur de l'énergie augmente. On verra quelles sont les causes de mécontentement les plus répandues chez les clients. Les automobilistes franciliens, champions des incivilités au volant, les automobilistes d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie se distinguent également, vous allez voir. Et puis Roland-Garros et Tsonga, Joe Wilfried Tsonga, qui va jouer. Et ce sera peut-être son dernier match, car ensuite il prendra sa retraite. Axel May sur le central, Cédric Pioline en studio. Affaire Abad, début de Papendiaï à l'éducation nationale, manque de main-d'œuvre en France. On va en parler dans Europe Midi avec vous et avec Ilana Sicurel, députée européenne Renaissance, membre du bureau exécutif de la REM, et avec David Guiraud, qui est orateur national de la France Insoumise.
Europe 1.
Il est au cœur d'un scandale sexuel. Le PDG du géant de l'assurance Assu 2000 annonce ce matin sa démission. Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grosses fortunes de France, est incarcéré depuis samedi et sa mise en examen pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Océane Théard avec nous. Bonjour Océane.
Bonjour.
Que sait-on exactement de cette affaire? Tout a commencé par une plainte déposée en mars dernier.
Eh bien oui, une jeune femme de 22 ans passe la porte d'un commissariat parisien et livre un récit glaçant. Depuis 5 ans, explique-t-elle, elle vivrait chez un homme riche, beaucoup plus vieux qu'elle. Un homme qui la séquestre, la viole à plusieurs reprises et qui un jour estime qu'elle est trop âgée pour lui. L'homme d'affaires lui demande alors de lui trouver une remplaçante. La jeune femme s'exécute. Elle se rapproche alors d'une adolescente de 14 ans, croisée dans un squat. Face aux enquêteurs, la plaignante anticipe les doutes, les suspicions. Elle serait donc venue au commissariat avec une vidéo qui montre cet homme d'affaires et la mineure de 14 ans dans un lit. Mais cette histoire sordide ne s'arrête pas là. Le PDG aurait eu vent de l'existence de cette vidéo. Il aurait donc tout tenté pour réduire la plaignante au silence. La justice le soupçonne d'avoir voulu mettre sur pied une équipe pour enlever cette jeune femme, la forcer à quitter la France pour le Maghreb et ainsi récupérer la vidéo compromettante. Un commando composé de la femme du PDG, deux salariés de sa compagnie, d'une proche de la plaignante et d'un ancien gendarme membre du GIGN. Toutes ces personnes ont été placées en détention provisoire. L'enquête a été confiée à la brigade des mineurs de Paris.
Océane Théard, merci Océane pour toutes ces informations. Parlons maintenant d'une affaire qui embarrasse le gouvernement, une affaire qui ne dégonfle pas. Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, visé par des accusations de viol. Il a démenti face caméra hier, écartant toute idée de démission de son tout nouveau poste de ministre. La première ministre, Elisabeth Borne, assure qu'elle n'avait pas connaissance des accusations au moment de nommer Damien Abad. Mais pour Xavier Bertrand, républicain comme Damien Abad il y a encore quelques jours, il était impossible d'ignorer ces accusations au moment de la nomination du ministre. Écoutez.
Qui peut imaginer un seul instant que le président de la République, M. Macron, que la première ministre, Mme Borne, ne savait pas? Vous savez,
elle
vous
l'a dit, elle l'a dit qu'elle ne savait pas.
Allons.
Quoi, elle a menti sur un sujet aussi grave et important? Elle aurait menti?
Je pense qu'il est important aujourd'hui de bien poser la question sur ce qui s'est passé. Quand vous êtes nommé ministre aujourd'hui, vous avez à la fois une forme d'enquête qui est menée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie financière. La vie politique, pardon. Le deuxième sujet, c'est que vous avez également les impôts. Et la justice est aussi interrogée pour savoir s'il y a pu y avoir des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Il est évident que M. Macron, Mme Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause.
Xavier Bertrand, président Les Républicains des Hauts-de-France, au micro de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Cette affaire Abad, il en était question, on l'imagine, autour de la table du petit déjeuner de la majorité, ce rendez-vous qui réunit la première ministre, deux membres du gouvernement et les chefs des partis macronistes à l'Assemblée. Elisabeth Borne l'a animé pour la première fois ce matin. Arthur Delaborde avec nous, bonjour Arthur.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Et entre le café et le croissant, les thèmes de discussion étaient déjà nombreux.
Oui, il y a d'abord effectivement cette affaire Abad qui empoisonne les premiers jours du gouvernement. Les élus de la majorité espèrent en sortir au plus vite et la plupart d'entre eux plaident pour une démission du nouveau ministre des Solidarités à la moindre ouverture d'enquête préliminaire. L'autre urgence sur le fond cette fois, c'est celle du pouvoir d'achat avec quelques précisions sur le calendrier. Les mesures visant à protéger les Français de l'inflation seront finalement présentées en Conseil des ministres après les législatives et non pas avant, comme cela était évoqué ces derniers jours. Un élément qui change la donne pour les candidats, puisque la plupart d'entre eux comptaient capitaliser sur ce paquet pouvoir d'achat dans la dernière ligne droite de leur campagne. La porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a toutefois précisé qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'exprimeraient très certainement avant le second tour pour annoncer les contours de ces mesures qui visent à atténuer les effets de la hausse des prix.
Merci beaucoup Arthur Delaborde. Merci Arthur. Les rendez-vous médicaux qui s'enchaînent chez des spécialistes différents pour comprendre pourquoi le sein de sa fille de 12 ans se déforme petit à petit. Pendant des semaines, les médecins ont dit aux parents de Chilo que leur fille n'avait pas de cancer du sein, que ce n'était pas possible chez une jeune fille. Cela n'existe pas, a dit le corps médical. Pourtant, c'est bel et bien cette maladie qui a emporté la jeune Chilo en décembre dernier. Sa maman, Diane, a choisi Europe 1 aujourd'hui pour parler. Son témoignage est un document Europe 1. Elle raconte son parcours, infernal évidemment, au micro de Yasmina Katou.
Du jour au lendemain, on a vu une tache rouge au niveau de son sein, avec une éruption de boutons en bouquet, avec des espèces de rayures, de nervures, telle une peau d'orange. Elle ne tenait pas debout. Quand elle marchait à la maison, elle se tenait un peu les murs, et il n'y avait pas d'amélioration, ça devenait de plus en plus rouge. Notre médecin traitant nous a prescrit une échographie. Elle a mis sur le compte-rendu que c'était une sorte de mastite.
Une inflammation du sein, en fait.
Une inflammation. Mon médecin me dit je la mets que sous antibiotiques, on ne mélange pas les anti-inflammatoires. Et au bout de quelques jours, il n'y avait toujours pas d'amélioration. Je retourne la voir. Et je lui dis, il sait un cancer du sein. Et là, derrière le comptoir, elle me méprise. Elle me dit, madame, je vous ai dit que le cancer du sein n'existe pas chez les enfants de 12 ans. Chilo est décédée juste à cause qu'elle avait 12 ans. On a refusé toute investigation de dépistage du cancer du sein, malgré que nous, les parents, disaient que c'était un cancer, malgré qu'on demandait. Elle est morte juste à cause d'avoir 12 ans. Si elle avait été détectée, elle était opérable. Chilo avait une force de vivre. Elle a subi un martyr, une atrocité. On a les photos, les vidéos. Chilo est tombée en France en 2021 sous le mépris, la maltraitance.
Voilà, un témoignage bouleversant évidemment. Diane et son compagnon, la maman et son compagnon souhaitent maintenant porter plainte contre tous les médecins qu'ils ont vus et qui n'ont pas prescrit d'examen. Il est midi 8, restez bien avec nous dans Europe Midi. Dans un instant, on va aller à Bordeaux, au CHU de Bordeaux. Il y a grève aujourd'hui au CHU de Bordeaux. Et pourquoi ? Bien parce que par manque de personnel, eh bien, il faut désormais appeler le 15 la nuit avant d'aller aux urgences. Si vous n'appelez pas le 15, eh bien, vous ne rentrerez pas aux urgences. Il faut qu'il y ait ce filtrage avant. On va rejoindre Stéphane Place en direct de Bordeaux dans un instant. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Midi 10, plus l'été approche, plus l'inquiétude monte chez les soignants. Le manque de personnel est une réalité depuis quelques années dans les hôpitaux, mais la période des congés d'été risque d'entraîner certains services d'urgence au bord de la rupture. Au CHU de Bordeaux, depuis la semaine dernière, faute de personnel, la nuit, les patients sont obligés de passer par le 15 pour espérer être admis. Les syndicats de l'établissement dénoncent une situation qui les oblige à faire du tri entre les malades. Stéphane Place en direct avec nous de Bordeaux. Bonjour Stéphane.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Les syndicats appellent à manifester aujourd'hui.
Oui, manifestation ici sur le rond-point à l'entrée de l'hôpital Pellegrin. Urgence en danger, peut-on lire sur une grande banderole, car c'est bien la nouvelle organisation que vous venez de décrire la nuit, décidée par la direction du CHU de Bordeaux, que dénoncent effectivement ces syndicats. La régulation se fait aussi d'ailleurs à l'entrée du service, si l'on s'y présente dans ce créneau horaire. Fabrice Dumas, délégué force ouvrière.
On a réussi à obtenir depuis peu que la sécurité civile ne s'occupe plus de la régulation. Maintenant, ça va être un paramédical avec un médecin. Mais le problème, c'est qu'à partir de 22h, vous avez un interphone et on ne sait pas où seront orientés les patients qui ne seront pas admis aux urgences. C'est vrai qu'il y a un problème de recrutement et surtout d'attractivité et d'intérêt à la profession. On sort de la pandémie, c'est une chose, mais les conditions de travail, ça fait des années qu'on les décrit.
Infirmier anesthésiste au SAMU, Gilbert Moudaine est le représentant du syndicat Sud.
Il y a plus de 40 étudiants de médecine qui répondent au centre 15 pour renforcer les équipes d'ARM parce qu'elles sont en sous-effectif, plus de 1000 à 1400 appels par jour. On reporte le problème sur un autre système et puis on sait qu'il y a des gens qui vont aussi reporter leur passage aux urgences. Il y a des cas où des patients risquent de passer dans les mailles du filet, je dirais, et avec des pertes de chances très graves.
Inquiétude d'autant plus vive, vous le disiez Romain, que la saison touristique commence. Alain Sebar de la CGT.
En plus, on va rentrer sur les week-ends de l'Ascension, week-end de Pentecôte, où la région quand même est très touristique, donc ça va être compliqué. Les vacances qui vont arriver cet été, là, avec tous les touristes, comment on va faire? Il faut du monde. Parce qu'on voyait qu'une aide-soignante se retrouve toute seule au lieu d'être quatre les week-ends, et qu'en fait, automatiquement, elle a une surcharge de travail, elle est fatiguée. Et après, elle se met en arrêt parce qu'elle n'en peut plus.
Les syndicats réclament donc des créations de postes et la fin de cette nouvelle organisation pour un retour à un fonctionnement normal, 24 heures sur 24, des urgences adultes de l'hôpital Pellegrin.
Stéphane Place, merci beaucoup. Stéphane, en direct de Bordeaux. On le sait, les prix de l'énergie ont flambé ces derniers mois, mais parfois, quand on reçoit sa facture, on a quelques doutes sur la justesse du calcul des prix par son fournisseur. Alors, en cas de litige, il est possible de saisir le médiateur de l'énergie. L'instance a reçu plus de 30 000 signalements l'année dernière. C'est 13% de plus en un an. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Cette hausse des contentieux s'explique d'abord par un principe. Plus les factures sont salées, plus on fait attention à ce qu'elles contiennent.
Et oui, avec la flambée des prix de l'énergie, les Français sont devenus plus vigilants et ils sont nombreux à avoir découvert les mauvaises pratiques de leurs fournisseurs. Certaines sont antérieures à la crise, d'autres sont directement liées avec des fournisseurs qui ont tenté d'y survivre, quitte à laisser leurs clients sur le bord de la route, comme l'explique Olivier Chaland-Belval, le médiateur national de l'énergie.
Ils avaient des contrats dont les prix étaient indexés sur les tarifs réglementés de vente. Les fournisseurs se retrouvant confrontés à des prix de marché plus importants, ils ont modifié le contrat, comme ils pouvaient le faire d'ailleurs, en indexant les tarifs appliqués sur les prix de marché. Bien souvent, ils ont mal informé le consommateur sur les conséquences de cette indexation qui modifie très fortement les prix qui vont être appliqués.
Alors sur le podium des mauvais élèves, on retrouve dans l'ordre Home Energy, Green Yellow et Mint Energy. EDF n'est pas épargné, l'opérateur historique a un taux de litige certes faible, mais en augmentation. Le médiateur note toutefois que les mauvais élèves de l'an dernier, Eni et Total Energy, font des efforts pour rectifier le tir.
Merci beaucoup Élise Dangean. Voilà, si vous avez un doute sur votre facture, vous pouvez saisir le médiateur de l'énergie. Si vous n'avez pas de réponse, évidemment, de votre fournisseur. Parfois, ça se règle rapidement. Notez que vous avez jusqu'à ce soir minuit pour remplir votre déclaration de revenus en ligne si vous habitez dans les départements numérotés de 1 à 19. De 1 à 19, ou si vous êtes non-résident français, vous avez jusqu'à ce soir. Sinon, après, c'est la majoration. Vous pouvez dépasser ce délai, mais après, vous payez plus cher. Prochaine échéance, le 31 mai. Date limite pour les départements entre le 20 et le 54, du département 20 à 54. Pour les autres départements, donc au-delà de 54, vous avez jusqu'au 8 juin. Une étude qui va forcément vous faire bondir de votre siège si vous êtes en voiture. L'Institut Ipsos dévoile aujourd'hui son baromètre sur les incivilités au volant selon les régions. C'est le match des régions. On y apprend que les automobilistes d'Auvergne-Rhône-Alpes sont les champions des injures sur la route. Eh oui, ceux de la région Occitanie sont imbattables en matière de klaxons intempestifs. Bon, mais les leaders, toutes catégories, ce sont les franciliens, les habitants de l'Île-de-France. Clément Barguin, pour illustrer cela, on vous retrouve avec des conducteurs parisiens.
Oui, au volant de son bus toute la journée, Olivier est un témoin privilégié des incivilités sur les routes franciliennes.
C'est un peu la misère. Personne ne respecte rien. Le code de la route, il n'existe plus. Les sens interdits, ça passe entre les voitures, ça s'énerve pour rien. Ça dégénère très vite à celui qui aura la plus grande gueule.
Des dérapages qui peuvent vite arriver dans le top 3 des incivilités commises par les automobilistes parisiens, les altercations entre conducteurs. Au volant de sa voiture, Lou a été prise à partie il y a quelques jours.
J'ai jeté une cigarette par terre, je sais que c'est pas bien. Et il y a un mec qui est descendu de sa voiture, qui a ramassé ma cigarette, j'avais la fenêtre ouverte et il me l'a jetée dans ma voiture. Moi je l'ai insulté.
Des noms d'oiseaux et des comportements dangereux comme doublé par la droite, une pratique courante selon Martial.
Dans dans les rues ou sur le périph, et maintenant de plus en plus sur l'autoroute, c'est quelque chose qui est normal. Un droit que tout le monde s'accorde pour aller plus vite, pour emmerder les autres aussi, pour dire tiens, t'as vu, je te double sur la droite.
Si les automobilistes perdent facilement leur sang-froid comme Jean-Gabriel, c'est parce que circuler est de plus en plus compliqué.
Il y a des bouchons, des blocages, on passe énormément de temps sur la route. La route est chronophage.
Des Parisiens aux mauvaises habitudes sur la route qui sont concurrencés par les conducteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'Occitanie.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Clément. C'est vrai que des personnes parfois très sympathiques dans la vie peuvent devenir, se comporter très mal en tout cas au volant. Et ce qu'il faut noter également, c'est que c'est dans cette étude Ipsos, 97% des conducteurs estiment être des bons conducteurs. Voilà, le mauvais conducteur, c'est l'autre. Hein. C'est souvent comme ça que ça se passe. Europe 1 en direct de Roland-Garros à présent.
Roland-Garros 2022. L'événement tennis est sur Europe 1.
Troisième journée du tournoi de Roland-Garros sur le court central. On vous retrouve, Axel May, la numéro 1 française, Alizé Cornet, a fait son entrée sur le court. Hein.
Oui, le match a commencé il y a quelques instants. Un jeu partout entre Alizé Cornet, 32 ans, 40e mondial, mais malgré cette 40e place, c'est la meilleure française face à Doi Misaki, la japonaise, 31 ans, 98e mondial. C'est le 61e tournoi du Grand Chelem consécutif que dispute là Alizé Cornet sous nos yeux. Et puis juste pour vous signaler que sur le court, Suzanne Lenglen, Daniil Medvedev, le numéro 2 mondial, est en train de faire qu'une bouchée de l'Argentin Banis, 6-2, 5-2 dans la deuxième manche. Et sur le court, Simone Mathieu, Tessa Andrea Jifitrimamo, qui est française, a remporté la première manche 6-2 face à la Tchèque Pliskova, 8e mondial.
Merci beaucoup Axel. Bonjour Cédric Pioline.
Bonjour Romain.
En direct de ce studio européen à Roland-Garros pour un Europe Midi en direct de Roland-Garros toute la semaine. Bon, avant de parler des matchs du jour, Cédric, retour sur cette performance de Diane Parry. On dit souvent que les Français ne sont pas au top, mais hier la jeune joueuse française de 19 ans a réussi un véritable exploit hein, en sortant la numéro 2 mondiale Barbora Krejčíková. Quelle est votre analyse de ce match et de cette jeune Diane Parry?
Mais écoutez, déjà, comme vous venez de le dire, c'est un exploit. Non seulement son adversaire est numéro 2 mondial, mais surtout, elle était la tenante du titre, puisque c'est elle qui avait gagné l'an passé. Donc, c'est quand même une sacrée performance, même si on peut dire qu'elle est arrivée un petit peu à court de compétition. Elle a été opérée du coude. Mais bon, en mettant ceci de côté, Diane Parry a fait son match. Elle a réussi à retourner la situation qui était vraiment mal embarquée. Un set de retard, un break de retard. Et puis finalement, elle s'est imposée en 3-7. Elle a vécu une superbe émotion et nous a fait vivre une superbe émotion. Ça fait très plaisir de voir, en l'occurrence, une Française qui n'a pas été écrasé par la pression ici à Roland-Garros.
Et puis il pourrait y avoir cet après-midi deux départs à la retraite. Hein. Oui. Joe Wilfried Tsonga qui va jouer et Gilles Simon. Ils ont dit que s'ils perdaient, ça serait leur départ à la retraite aujourd'hui. En tout cas, c'est leur dernier tournoi.
Pour Tsonga, c'est tout à fait vrai. Gilles Simon lui a annoncé qu'il jouerait jusqu'à la fin de l'année et qu'il prendrait sa retraite en fin de saison. Donc, en tout cas, pour les deux, une dernière édition ici à Roland-Garros et j'espère qu'ils passeront le premier tour, voire un petit peu plus loin.
Merci Cédric. Tous les jours dans Europe Midi, l'expertise de Cédric Pioline sur Roland-Garros. La météo avec Anissa Haddadi, un temps mitigé, des averses cet après-midi Anissa.
Oui, et ces averses vont effectivement recouvrir les trois quarts du pays. Ce matin, elles ne concernaient que le littoral atlantique. Cet après-midi, il n'y a que le quart nord-est qui reste au sec. Et puis, une partie du bassin méditerranéen, c'est vrai que sur la Côte d'Azur et la Corse, le temps est agréable avec encore pas mal de soleil. Ça se couvre sur la Provence. Ça reste très humide hein, avec des pluies fréquentes sur la chaîne pyrénéenne et quelques coups de tonnerre sur les Pyrénées orientales. Et puis le vent qui se lève au bord de la Méditerranée où nous avons de la tramontane jusqu'à 50 km/h. C'est donc, vous l'avez constaté, une journée assez mitigée où le ciel est partagé entre nuages et éclaircies et averses. Les températures sont fraîches, 16 à Guéret, 18 à Paris et Lille et jusqu'à 27 pour Marseille.
Merci Anissa, il est midi 20. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va commencer le débat. Affaire Abad, est-ce que Damien Abad peut rester au gouvernement? On va parler des premiers pas de Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Comment est-ce que vous trouvez ce nouveau gouvernement Borne? On en parle dans Europe Midi avec David Guiraud, orateur national de la France Insoumise, et Ilana Sicurel, députée européenne Renaissance. A tout de suite.
Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39 21. 50 centimes la minute.